sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'écrivain diplomate Jean-Christophe Ruffin, élu à l'Académie française au fauteuil d'Henri Troya, décédé en mars 2007, a été reçu sous la coupole de l'Institut de France le 12 novembre 2009. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette séance solennelle, au cours de laquelle son confrère Yves Pouliquen de l'Académie française a prononcé son discours de réception et Jean-Christophe Ruffin, en remerciement, a prononcé l'éloge de son prédécesseur Henri Troya. Retrouvons Jean-Christophe Ruffin sous la coupole de l'Institut de France en présence de nombreux invités.
La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Ruffin pour la lecture de son remerciement.
Mesdames et messieurs de l'Académie, la tradition de cette compagnie veut que le nouvel élu, pour prononcer son discours de réception, se tienne debout à la troisième rangée des sièges, un peu à distance de la travée. Cette obligation semble avoir pour but d'ajouter encore au trouble de celui qui doit s'adresser à une aussi prestigieuse assemblée, alors qu'il est déjà couvert de broderies et flanqué d'une épée, détails qui de nos jours ne sont pas de nature à mettre quiconque à l'aise. Pourtant, je préfère considérer cette coutume comme un usage plein de sagesse et m'en réjouir. Placé au milieu de mes futurs confrères, je me sens dispensé de leur infliger une péroraison magistrale. Le seul ton qui convienne, dans la position qui est la mienne en cet instant, est celui de l'amitié. Permettez-moi d'oublier la majesté du lieu et l'écrasante présence de ceux qui nous y ont précédés. Je ne veux voir ici que des amis auxquels je m'adresse avec une émotion qui vient de ma seule reconnaissance. À ces amis, je n'ai pas de vérité à livrer, mais seulement des confidences à faire. Et d'abord celle-ci, pour vous demander de m'en absoudre, je ne crois pas à l'immortalité. Je ne parviens pas à admettre que notre plus profond désir puisse être exaucé dans ce monde. Et la variante académique de ce concept, sorte d'équivalent du salut par les œuvres, ne me convainc pas non plus. Cependant, si je doute de l'immortalité, je crois fermement en l'éternelle jeunesse. Il me semble qu'en établissant cette compagnie en 1635, le cardinal de Richelieu a placé sous cette coupole une fontaine de jouvence. Comprenez-moi bien, il ne nous a pas mis, hélas, à l'abri des épreuves qui altèrent les corps et les abattent. L'éternelle jeunesse, nous n'en sommes pas les bénéficiaires, mais les instruments. C'est le corps que vous formez ensemble qui, grâce à chacun d'entre vous, se régénère sans cesse et triomphe du temps. Votre enthousiasme, votre talent, votre œuvre, votre vie même, vous les avez les uns après les autres apportés à cette assemblée. J'étais loin, chargé de représenter la France dans un pays, le Sénégal, qu'a dirigé jadis l'un d'entre vous, quand vous m'avez fait l'honneur inespéré de m'appeler à assurer à mon tour cette relève, je vous en remercie avec beaucoup de gravité. Mais l'éternelle jeunesse de cette compagnie ne vient pas seulement du mouvement qui, après chaque disparition, consacre un nouvel élu au service de son fauteuil. Elle procède aussi de l'exercice auquel j'ai le devoir de me livrer aujourd'hui, celui de l'éloge. À l'instant où il va occuper la place du regretté confrère que ses compagnons ont vu durer, s'affaiblir et disparaître, il revient au nouveau venu de restituer l'image de son prédécesseur dans sa force et dans sa jeunesse. Il doit emplir à jamais cette coupole du souvenir d'un être intact dans la plénitude de son génie. C'est à quoi je vais m'employer en évoquant devant vous Henri Troya, le grand écrivain auquel j'ai l'écrasant honneur de succéder. Il n'est personne à qui l'exercice de cet éloge, ce grand écart du temps d'un bout à l'autre d'une vie d'homme, ne soit plus nécessaire. Henri Troya, à la date de sa mort, fut votre doyen d'élection, un homme d'une remarquable longévité physique et littéraire, écrivant jusqu'à ses derniers jours. Mais il fut également, et d'abord, un artiste d'une grande précocité, dont l'œuvre et la carrière commencent à des âges exceptionnels. Premier roman publié à 23 ans. Prix Goncourt à 28 ans. Élu à l'Académie française à 48 ans. 48 ans. Quel encouragement pour moi qui me sens si jeune pour rejoindre cette compagnie. Henri Troyat avait presque 10 ans de moins que moi quand il s'est présenté ainsi vêtu, précédé par les tambours pour s'asseoir sur ce même fauteuil numéro 28. C'est un signe de bonne santé pour une institution que de prendre le risque inouï d'admettre en son sein et pour le reste de leur vie des femmes et des hommes en pleine force de l'âge. L'Académie n'a cessé ainsi de se construire par vagues. On y discerne facilement les strates formées par les générations. Toujours l'une d'elles domine et marque de son empreinte l'histoire de son époque. Henri Troyat, né en 1911, a constitué l'avant-garde d'une de ces grandes générations, celle des hommes du XXe siècle. Il fut l'un des tout premiers à entrer dans cette compagnie et à lui apporter un air nouveau. Je reconnais autour de moi nombre d'entre vous qui entraient tôt dans cette académie, l'ont façonnée telle qu'elle est aujourd'hui, diverse, brillante, mondialement reconnue. Vous avez à présent, je le sais, le souci de relever le défi des temps nouveaux. Je veux croire que c'est à ce titre, et non pour mes mérites qui sont bien minces, que vous m'avez fait l'honneur de me choisir. Je suis en effet le premier de vos membres à être né dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ma génération a atteint l'âge adulte après la mort des idéologies. La plupart des bastilles étaient prises, les rêves de grand soir étaient souillés du sang des goulags, les lampions de mai 68 éteints. Privée de grandes causes à défendre autant que de perspectives professionnelles, cette génération a souvent choisi l'aventure. Beaucoup d'entre nous qui voulaient s'engager se sont jetés dans l'action humanitaire. Nous en avons apporté quelques satisfactions, beaucoup de douleurs, d'innombrables images. Et c'est par le détour de ces images et des livres qu'elles ont fait naître que vous m'ouvrez aujourd'hui votre porte. J'en suis heureux pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui, partis du même point que moi, ont emprunté d'autres itinéraires et produit d'autres œuvres. J'aimerais à mon tour les conduire un jour jusqu'à vous. L'élection d'Henri Troyat a été facile. Première candidature, premier tour, quasi-unanimité. Tous ses autres succès, il les a d'ailleurs obtenus de la même manière, sans effort. Ou plutôt en réservant ses efforts à son œuvre, jamais au moyen de la promouvoir. Cette facilité prend souvent des aspects comiques. Quand son premier roman est publié, Faux jour, la critique l'encense, un prix prestigieux lui est décerné, on le compare à Raymond Radiguet, et lui, pendant ce temps-là, simple deuxième classe au 61e régiment d'artillerie hippomobile, il est à l'infirmerie. Ses camarades de chambre le félicitent, mais sans trop faire la différence entre un écrivain et un imprimeur. Un peu plus tard paraît son roman « La Règne ». Il est alors rédacteur à la préfecture de la Seine. On l'a chargé d'une étude sur les lampadaires. Le jour du prix, il va déjeuner dans un petit restaurant du quartier et rentre au bureau un peu en retard. Deux collègues lui font signe de se dépêcher. Il craint de se faire réprimander. On lui annonce au contraire qu'il vient de se voir décerner le prix Goncourt. Nous entrons là dans le mystère même d'Henri Troyat. Un divorce total entre une vie paisible, régulière, apparemment immobile, et une œuvre d'une richesse, d'une variété, d'une puissance qui en paraissent presque incompréhensibles. Henri Troyat semble avoir pris plaisir à décourager les biographes. À compter de 1933, date à laquelle il est naturalisé français, admis au concours de la préfecture de la Seine et prend le pseudonyme d'Henri Troyat, plus rien d'extraordinaire ne paraît occuper son existence, en dehors de la littérature et de la gloire qu'elle lui apporte. Aucun tumulte dans sa vie affective, au contraire, un premier mariage dont il aura un fils, puis après la guerre, l'amour de sa femme et de sa fille, qui règle sa vie matérielle et auquel il lit chaque soir sa production du jour. Quelques revoyages, rien moins qu'aventureux, des amitiés rares et durables, une maison à la campagne, d'abord à Grasse, puis parce que c'était encore trop loin pour lui, dans un petit village du Loiret. Une incapacité assumée pour la vie pratique, et en particulier le refus absolu de la conduite automobile. Une amabilité à l'égard de tous, même de ceux qui ne l'ont pas épargné dans leurs articles. Peut-on conclure, comme pour Kant, qu'il ne lui est rien arrivé d'autre que d'avoir du génie ? Mis à part la singularité d'écrire debout, il semble qu'Henri Troyat ait pris soin, en effet, de ne rien présenter de remarquable. « J'ai déjà connu le bonheur, disait Jules Renard, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. » Moi qui ai depuis longtemps souscrit à cette maxime vénéneuse, j'ai mis du temps à admettre que la vie d'Henri Troyat pût avoir été aussi paisible. J'ai obstinément cherché des failles dans sa cuirasse. Certains romans, je pense au Signe du Taureau par exemple, proposent des pistes trompeuses. Ses relations parallèles, ses amours clandestines, ses pulsions violentes sont si bien décrites qu'on est tenté d'en attribuer à l'auteur l'expérience directe. À mesure que l'on pénètre dans le secret de sa création, on se rend compte cependant qu'il n'en est rien. Troyat a d'abord décidé quel caractère il allait traiter, et ensuite, comme un sculpteur qui affine ses premières ébauches, il va creuser, modeler, contraster, jusqu'à donner au personnage le relief qui le fait croire vivant et réel. Troyat pratique en somme le contraire de ce que l'on appelle aujourd'hui l'autofiction. Le roman qui m'a le plus égaré en la matière est « La neige en deuil ». C'est l'occasion pour moi de vous mettre en garde. Après avoir élu en la personne de mon ami Éric Orsena un fou de la mer, qui succédait, il est vrai, au commandant Cousteau, vous vous êtes encombré cette fois-ci d'un maniaque de la montagne. Il ne s'agit pas chez moi d'une maladie congénitale, puisque je suis né dans le Berry, pays plat s'il en est, dont le point culminant ne dépasse pas 200 mètres. Je salue d'ailleurs ici les représentants de l'Académie du Berry, dignes héritiers de Georges Sand et d'Alain Fournier. Ils m'aident à entretenir l'affection que j'ai pour la champagne berrichonne, la Sologne et le bois chaud. Mais, sur le terrain sans immunité d'un natif de ces plaines, le virus de la montagne, contracté à l'âge de 18 ans, a fait des ravages. J'aime l'escalade, le maniement des mousquetons et la corde, le monde minéral du granit et des glaciers, l'amitié des guides, dont j'utilise rarement les services mais toujours les conseils, car je suis incurablement un premier de cordée. J'ai le bonheur de pouvoir me réfugier à Saint-Nicolas de Véros dans une maison savoyarde qui ouvre sur l'aiguille de Bionacé et les dômes de Miage. Les nuits d'insomnie, je peux suivre à la jumelle les lampes frontales des alpinistes le long de la voie normale du Mont Blanc. Aussi, quand j'ai relu pour préparer ce discours La neige en deuil, j'ai cru tenir le lien. J'imaginais un Troyat secret, lassant ses grosses chaussures, saisissant son piolet et partant à l'assaut de la dent du géant ou des aiguilles dorées. Le roman tourne autour d'un épisode resté dans les mémoires, l'accident d'un avion indien, le Malabar Princess, pris dans la tourmente au-dessus du Mont Blanc en 1950. Quand j'ai commencé l'alpinisme, il y a plus de 30 ans, nous nous entraînions sur le glacier des Bossons. De temps en temps, lorsque nous plantions nos crampons, il arrivait qu'un éclat de glace libéra de sa gangue un morceau d'os humain. C'était sans doute, régurgité longtemps après par la montagne, les restes des malheureux naufragés du Malabar Princess. Hélas, en enquêtant sur la rédaction de La neige en deuil, je dus me rendre à l'évidence. Henri Troyat avait eu l'idée de ce drame de manière abstraite, comme une histoire passionnelle entre deux frères aux caractères opposés. C'est par hasard qu'il en avait situé l'action à la montagne. Sa femme Gitte, veuve d'un médecin de Chamonix, lui avait fait visiter la vallée, l'avait emmené en promenade sur les sentiers sans danger du Mont-en-Vert, et le réalisme des détails provenait des conseils que lui avaient prodigués quelques alpinistes autour d'un verre de Genépi. Le malentendu était total. Dans La neige en deuil, l'essentiel pour moi, c'était la neige, mais pour Troyat, c'était le deuil. Il fallait me rendre à l'évidence, ni sur ce terrain, ni sur aucun autre, sa vie ne s'était écartée d'une prudence raisonnable, d'une modération de bonne aloi. D'où pouvait provenir cette retenue ? Chez un homme qui, par ailleurs, témoigne dans toute son œuvre d'une véritable fascination pour l'action, le drame, les voyages. Je me suis interrogé jusqu'à ce que je tombe sur cette phrase qui m'a subitement éclairé. Je cite « Il faut choisir ou être un amateur ou être un monstre. Le monstre est aussi bien le champion de tennis dont le bras droit a une musculature hypertrophiée que l'écrivain qui vit intensément en fonction de son œuvre. » Tout est dit. Henri Troyat a choisi d'être un monstre, c'est-à-dire de se laisser dévoré par son œuvre. La conclusion est immédiate. La richesse humaine d'Henri Troyat, il faut en chercher l'origine avant son œuvre. Et si l'on porte le regard non plus vers sa vie d'homme, mais vers son enfance, on saisit la singularité de cette existence. Henri Troyat est un être à qui le hasard du temps et des lieux a donné de vivre toute une vie en raccourci dans ses premières années. Comme un conte violent et cruel, comme dans le rêve prémonitoire d'Ibn Battuta, Troyat a vu le monde lui livrer ses secrets avant de pouvoir les comprendre. Il lui a fallu le reste de ses jours pour mettre de l'ordre dans ce chaos, revivre en l'écrivant ce qu'il avait d'abord aperçu comme une fulgurance en le subissant. Avant Henri Troyat, il y eut Lev Aslanovitch Tarassov. Écoutons-le nous présenter ses ancêtres. La famille de mon père, qui portait jadis le nom de Tauros, est originaire de la bourgade mi-arménienne, mi-circassienne d'Armavir, dans le nord du Caucase. De temps immémorial, des groupes d'Arméniens vivaient dans la montagne, en étroite amitié avec des tribus de Tcherkesses. De ces Tcherkesses, ils avaient adopté la langue, le costume et les mœurs. Vêtus d'une tunique noire, la poitrine barrée d'un régime de douille, un poignard d'argent à la ceinture, un bonnet d'astrakhan sur le crâne, ils invoquaient à tout bout de champ le nom d'Allah, se nourrissaient de laitage et de viande séchée, mais restaient fidèles à la foi chrétienne. Ces Tcherkesses arméniens, comme on les appelait, n'avaient même pas d'église dans leur village. Une fois l'an, un prêtre arménien venait d'Etchmiadzin, loin dans le sud, pour marier tous les jeunes couples et baptiser tous les nouveaux-nés, après quoi il repartait en hâte, priant Dieu pour que son convoi échappât aux attaques des brigands qui surveillaient les défilés dans la montagne. Voilà la vie. Et d'ailleurs, voilà la montagne. Mais la montagne originelle, mythique, violente, ce Caucase aux mille peuples et aux cent langues où les religions se côtoient, se bousculent et parfois se confondent. On a beau être rédacteur à la préfecture de la Seine. Quand on plonge ses racines dans une terre aussi riche, on peut créer autant d'univers qu'il est possible d'en imaginer. Le simple paragraphe que je viens de lire convoque la vie, réveille les souvenirs, dispose à accueillir d'autres expériences venues de mondes bien éloignés. Ces chrétiens qui invoquent Allah, il suffit aujourd'hui de visiter certains villages du Liban pour y rencontrer des chrétiens qui se prénomment Abdallah ou Latfallah. Ces prêtres venus d'au-delà des monts pour enchaîner les bénédictions, me rappellent l'Éthiopie, dont l'Abouna, pendant des siècles, était un moine venu d'Égypte, le plus souvent pieds nus, et qui montait vers les hauts plateaux abyssins pour y tenir le rôle de pape en se cachant des voleurs qui infestaient les chemins. Quant à ces guerriers, à la poitrine barrée d'un ruban de cartouche, ce ne sont pas des clichés folkloriques, j'en ai croisé hélas de nombreux sur tous les théâtres de conflits contemporains, de la Somalie à l'Afghanistan, de l'Érythrée au Cambodge. Venir du Caucase, c'est porter en soi toute la diversité de l'Europe et peut-être du monde. Être arménien, c'est savoir vivre en sympathie avec ses différences. Pourtant, cette souplesse mentale ne signifie nullement mollesse de caractère. Les Arméniens, fussent-ils Tcherkesses, savent qui ils sont et en quoi ils croient. Quand les Russes entreprennent la conquête du Caucase au début du XIXe siècle, les Arméniens ne leur tiennent pas rigueur du concile de Chalcédoine et ils se rangent à leur côté. Les Tauros deviennent les Tarassov. C'est la première étape de leur ascension dans le monde russe. Les Tarassov ouvrent des comptoirs de drap dans plusieurs villes de Russie et même à l'étranger. Ils exploitent une ligne de chemin de fer. Bref, ils deviennent riches et leur installation à Moscou sera le témoignage de cette réussite. Lev Tarassov naît dans le célèbre quartier de l'Arbat à Moscou le 1er novembre 1911. Il n'est pas besoin d'être féru de numérologie pour prédire un avenir d'exception à celui qui voit le jour à une date qui ne comporte que des 1. Sa mère est d'origine allemande, arménienne et géorgienne. Elle a mis au monde deux autres enfants, une fille de 9 ans plus âgée et un garçon de 4 ans, son aîné. La vie, dans sa cruauté, va alors projeter dans la conscience de Lev des images de luxe et de paix qu'il est encore incapable de comprendre, mais qu'il n'oubliera jamais. Il décrira plus tard la cour de Pierre le Grand ou de Catherine II avec une aisance qui lui vient sans aucun doute de ses visions ramenées du paradis. L'immense maison, presque un palais, les escaliers monumentaux, les boiseries, la calèche et la voiture, le traîneau d'hiver, la variété des domestiques, portiers, cireurs, cuisiniers, femmes de chambre, chauffeurs, cochers, et bien sûr, les trois figures maternelles, sa vraie mère, courant les réceptions et les bals, sa gnagna russe et la gouvernante suisse. Son père est un homme respecté et puissant. Le petit Lev Tarassov peut dormir tranquille. Or voici que pour son 6e anniversaire, le destin lui apporte un cadeau inattendu, la révolution. Alors comme un visage reflété dans le cuivre d'un samovar, le monde qui l'entoure va devenir méconnaissable. L'insouciance fait place à la peur, la prospérité à la pénurie. On dresse des matelas contre les fenêtres. Des coups de feu sont tirés dans la rue par des individus mystérieux qu'on appelle les bolcheviks. Surtout, les personnages familiers révèlent leur face cachée. Immense leçon pour un romancier. Il faut beaucoup plus de temps dans une vie ordinaire pour explorer le fond des caractères qui nous entourent. Terrible privilège que de voir à 6 ans ceux qui faisaient assaut d'obséquiosité, le chauffeur, le cuisinier, le jardinier, changer de camp, exprimer tout à coup leur mépris, leur haine, leur menace. Mais Lef n'est pas au bout de ses découvertes. Vient ensuite une nouvelle aventure, le départ. La révolution à 6 ans, ce sont d'abord des vacances. On se déguise en pauvre, des bijoux cousus dans les poches. On prend des trains qui ne vont nulle part. On se rejoint, on se perd, on se retrouve comme dans un gigantesque jeu de cache-cache. À certains détails, l'enfant comprend pourtant que tout cela n'est pas un jeu. Mais alors, de quoi s'agit-il? L'angoisse de sa mère rejaillit sur lui. L'humeur insouciante des vacances fait place à une peur mêlée de tristesse et de honte qui n'a pas encore de nom et qui, bien plus tard, s'appellera l'exil. Pour l'heure, ce qu'enregistre le cerveau de l'enfant, ce sont des images dépourvues de sens. Ainsi, ces ouvriers dans un wagon qui regardent la famille Tarassov de travers. Le peuple a flairé les riches, malgré leur accoutrement. On murmure des insultes contre les bourgeois, buveurs de sang. Et le petit Lef se souvient que l'année précédente, pour combattre une anémie, le médecin lui a fait boire du sang de bœuf. Est-ce cela qu'on lui reproche? Il est prêt à se défendre, à protester qu'il a été forcé, qu'il ne le refera plus. 1000 épisodes se gravent dans son esprit. C'est un trésor pour toute une vie. Il ne le sait pas encore. Après les trains viennent les bateaux, encore plus angoissants quand un incident survient. Ainsi, cette mutinerie sur la mer Noire. Les marins menacent de livrer leurs passagers, la racaille blanche, aux bolcheviks à Sébastopol. On se cotise et les fonds réunis parviennent à calmer l'indignation des révoltés. Le bateau continue sa route, les miraculés arrivent dans le Caucase. Là, le père de Lef possède une maison de villégiature et revoilà les vacances. Un beau parc, des restaurants chics dans la ville, la cime pure des montagnes alentour, le petit garçon, qui a tant de mal à se faire passer pour un pauvre, reprend sans hésitation les habitudes de son enfance de chef. Mais bientôt, hélas, il faut de nouveau reculer. Destination Constantinople. La surprise. Ne sont autorisés à débarquer que les Arméniens, les vrais, ceux dont le nom se termine par Yan. Les Tarassov, si fiers de leur russification, et qui n'ont jamais parlé la langue arménienne, doivent supplier qu'on leur restitue leur première identité. Un subterfuge, sans doute payé au prix fort, permet au père de Lef d'obtenir un document signé du représentant de la toute nouvelle République d'Arménie. Celui-ci certifie que la famille connue en Russie sous le nom de Tarassov s'appelle en réalité Torossian. Arrivé à Constantinople, une frontière est franchie, celle de la Russie. Les fuyards, cette fois, sont bel et bien à l'étranger. Ils passeront ensuite en France, en Italie, en Allemagne. Chacun de ces pays les accueillera, plus ou moins bien, leur réservera des découvertes et parfois des satisfactions. Ils restent qu'en aucun de ces lieux, ils ne seront plus véritablement chez eux. La gravité de cet éloignement, ils n'en prennent pas tout de suite conscience. Ils font courageusement le compte de leurs atouts, ils sont jeunes, ils sont encore riches, ils sont ensemble et surtout ils sont vivants. Il leur suffit d'attendre que tout se calme et pour attendre, quel meilleur emploi du temps que la fête. Ceux qui ont vécu cette époque en ont tous témoigné, les émigrés ont fait la fête. Sur la Côte d'Azur, dans les villes d'eau, les capitales, ces diables de Russes s'étourdissaient de plaisir sans regarder à la dépense. Peut-être par fierté, pour ne pas apparaître comme des vaincus, peut-être pour oublier les humiliations et les blessures, peut-être simplement par tempérament, ils ont chanté comme des cigales. À l'enfant qui était entraîné dans cette dépense, il était chaque jour répété que tout cela ne durerait pas, que le retour était proche. Pareille erreur n'a rien d'étonnant. Une des caractéristiques essentielles des événements historiques est qu'ils ne sont pas immédiatement compréhensibles. Pour avoir longtemps parcouru les théâtres de guerre ou de crise de ces dernières années, je suis habitué à côtoyer ce mystère. De quoi sommes-nous les témoins? Telle est toujours la question. Vous ne rencontrerez jamais un panneau qui indique aimablement « Attention, ici, guerre ». Rien ne ressemble plus à un endroit paisible qu'une zone de combat. Tout semble calme. Le silence règne. Il y a de la verdure, des oiseaux. Et puis d'un seul coup, un bref instant, la violence se déchaîne. Fabrice, à Waterloo, donne l'image exacte de la guerre. Se repérer dans un conflit armé, établir un pronostic sur une révolution, déceler les prémices d'un génocide sont des choses extrêmement difficiles. Comment alors en vouloir aux émigrés russes de n'avoir pas compris tout de suite ce qui était en train de se dérouler? Ce soulèvement, ils le pensaient encore avec des concepts hérités de la Révolution française. Ils ignoraient qu'ils ne connaîtraient jamais son thermidor. Le phénomène bolchevique était une nouveauté historique qui n'en finirait pas de tromper son monde. Qui pouvait imaginer de quoi les soviétiques seraient capables en Ukraine dans les années 30? Qui pouvait prévoir Staline, les procès de Moscou, le goulag? Nous nous sommes constamment trompés sur l'URSS. Après avoir cru qu'elle était éphémère, nous avons accepté l'idée qu'elle serait éternelle, à l'exception de quelques-uns plus clairvoyants qui nous ont annoncé très tôt l'éclatement de l'Empire. Le monde que quittaient les Tarassov était si solide, si ancien, qu'ils ne pouvaient imaginer sa disparition. Et quand enfin ils le pourront, ils ne le voudront plus. À mesure que le bateau de l'émigration perd de sa vitesse, s'enfonce, s'immobilise, à mesure que l'argent s'épuise, que les fêtes se font plus rares, que les appartements rétrécissent, que les emplois deviennent plus nécessaires et plus humbles, il faut plus que jamais croire au retour. Troïa décrira la vie de gêne de ses parents, leur déménagement successif dans des lieux de plus en plus exigus. Il voit sa mère se transformer en ménagère et son père en modeste employé, mais le soir, sous la lampe. Il continue de manipuler des vieilles créances russes, de rêver sur des titres de propriété, de trier les pièces d'improbables procès qui doivent les rendre riches et qu'ils perdront tous. Alors, dans ce silence qui fait suite au tumulte, dans ces murs étrangers, et avec des mots qui sont ceux d'une langue d'abord apprise avec sa gouvernante et qui désormais s'impose comme celle de son nouveau pays, Lev Tarassov, enfant grave et solitaire, cherche à reconstituer ce qui s'est passé et à comprendre. J'ai bien connu, quoique beaucoup plus tard, ces milieux de l'émigration russe à Paris. Mon fils, né d'un premier mariage avec une descendante d'émigrés russes, a été élevé dans les deux langues. Nous l'avons baptisé à Saint-Séraphine de Sarov, une petite église russe construite autour du tronc d'un bouleau et cachée derrière les marchands de fruits et légumes de la rue Le Courbe. C'est d'ailleurs là aussi que mes deux filles ont reçu, 15 ans plus tard, le même sacrement. Par les soins d'un prêtre orthodoxe serbe qui avait accepté de ne pas s'arrêter aux différences théologiques. En roulant terriblement les R, il avait déclaré à ma femme, qui est d'origine éthiopienne, « Pour 300 francs, madame, je fais aussi copte. » Ce monde russe de l'émigration se présente comme une exceptionnelle galerie de portraits et de décors pittoresques. Le jeune Lev Tarassov a cherché par quels moyens artistiques rendre compte de ce dont il avait été et continuait d'être le témoin. Il a envisagé la peinture, puis le théâtre, mais très vite le choix est fait. Ce sera l'écriture. Tenté par les vers, Lev va s'orienter plutôt vers sa véritable vocation, le récit. Cette fuite dans la fiction se présente aussi comme une lutte pathétique contre la brutalité du réel. Imaginez un adolescent chargé de toutes ses expériences et qui doit encore descendre les derniers degrés de l'humiliation et de la pauvreté. En même temps qu'il termine son premier roman, les huissiers entrent dans l'appartement de sa famille et vendent sous ses yeux les meubles à l'encan. Les œuvres de jeunesse de l'écrivain sont très scrupuleusement françaises. Il y peint des univers clos, étouffants même, dans une langue lisse, impeccable, selon des constructions d'un classicisme rigoureux. Fidèle aux leçons de son professeur, le romancier Auguste Bailly, et influencé par son ami Michel, qui le présente à son père, André Mauroy, le jeune émigré s'efforce de devenir un écrivain français. Lorsqu'Henri Troyat lit les grands auteurs russes, c'est pour en prendre ce qu'ils ont d'universel et de classique. Tout se passe comme si l'acquisition de la technique littéraire s'était faite d'abord chez Troyat, aux dépens des sources russes. Il apprend à écrire sur des sujets neutres qui n'ont à voir ni avec son expérience ni avec ses souvenirs. Ses coups d'essai sont des coups de maître qui lui apportent la reconnaissance littéraire française. Mais ils esquissent une œuvre bien différente de celle qu'il est appelé à donner. Plus proche de François Mauriac que de Tolstoï. Le résultat est bon, mais Troyat reconnaît lui-même avoir dans ses premiers romans le souffle un peu court. Au bout de 150 pages, il cale et s'arrête. Heureusement, cet outil efficace d'expression va bientôt rencontrer la nappe souterraine des souvenirs russes et tout va s'élargir. Il est intéressant d'observer comment s'est opérée cette rencontre. Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler une forme d'allergie mentale, c'est-à-dire une réaction explosive liée à la répétition d'un événement qui n'avait pas produit d'effet la première fois. En préparant mon roman Rouge Brésil, j'ai rencontré un cas similaire, celui de Jean Delery, l'homme à qui nous devons la plus belle et la plus complète description du Brésil et des Indiens qui le peuplaient au milieu du XVIe siècle. Ce protestant avait eu l'occasion unique de vivre parmi les tribus anthropophages. Il avait observé leurs rites et leur culture avec précision. Pourtant, Léry n'avait rien écrit à son retour. Il faudra que survienne, 20 ans plus tard, un incident tragique pour que naisse en lui l'envie de raconter. La scène se passe pendant les guerres de religion qui ravagent la France. Léry est enfermé dans la ville de Sancerre, encerclé par les catholiques. La population meurt de faim. En passant dans une ruelle, il aperçoit par une fenêtre un couple en train de dévorer son enfant morte. Cette deuxième rencontre avec le cannibalisme va produire en lui un choc. Elle lui ramène en mémoire l'anthropophagie des Indiens et c'est alors qu'il écrit sa fameuse « Histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil ». Un choc aussi puissant, quoique de nature bien différente, sera subi par Henri Troyat au début de la Seconde Guerre mondiale. La défaite de la France lui fait subir à quel point ce pays est devenu sa patrie. Mais au même moment, une loi de Vichy vient lui disputer cette nationalité. On interdit tout emploi de fonctionnaire à quiconque n'est pas français de naissance. Léon Tarassov s'écrit « Voici que de nouveau, je suis un apatride ». Sans avoir le talent de mon maître Jean Delay pour les psychobiographies, je ne peux voir une simple coïncidence entre ces événements et l'évolution soudaine de l'œuvre de Troyat. Car c'est à cette époque qu'il entreprend de plonger systématiquement dans son passé russe, comme s'il se préparait, en renouant avec l'expérience de ses parents, à affronter le nouvel exil qui s'annonce. Troyat, finalement, ne sera pas contraint à la fuite. Il passera la guerre sans dommage. Mais de cette époque jailliront les grands ouvrages russes qui prendront à la fois la forme de saga et de biographie. La bonde de la mémoire sera ouverte et le flot des images, des portraits, des décors, des sensations, des émotions s'écoulera à gros bouillons dans une œuvre torrentielle qui le mènera jusqu'à l'estuaire de sa vie. La première biographie, monumentale, est celle de Dostoïevski. Son étude n'a rien de livresque. Troyat entre dans la familiarité de Dostoïevski au point d'en faire des cauchemars, de le voir pénétrer dans sa chambre, de sentir son odeur. La démesure dostoïevskienne va donner de l'ampleur et du souffle à son inspiration. Elle fait voler en éclats le huis clos un peu anémié de ses œuvres françaises. Presque en même temps naît la première saga familiale. Ce sont les 7 volumes du cycle « Tant que la terre durera ». La méthode employée par Troyat est un processus en 3 temps. Souvenir, témoignage, création. Un exemple. Le train de l'Exode emmène le jeune Lev, sa mère, ses frères et sœurs et leurs gouvernantes à travers la Russie, en proie à la Révolution. Il s'entasse dans un wagon à bestiaux dont le sol est recouvert de paille. Les essieux mal graissés envoient des gerbes d'étincelles. La paille s'enflamme. Attisé par la vitesse, le feu se répand. Les passagers suffoquent. Pas moyen de s'échapper. Les portes sont fermées à clé. Inutile de dire qu'il n'y a pas de sonnette d'alarme dans les wagons à bestiaux. Finalement, Madame Tarassov a la présence d'esprit de remarquer sur le manteau d'un de ses fils un petit sifflet cousu en sautoir. On conçoit quelle image d'épouvante. Un tel épisode peut laisser dans l'esprit d'un enfant de 6 ans. Sa mémoire ne conserve qu'un chaos d'images, la fumée âcre, le sifflet, les joues gonflées et les yeux exorbités de cette femme qui souffle dans un jouet. À ce souvenir, l'auteur va plus tard ajouter le témoignage. Avant d'écrire, il interroge ses parents, leur fait raconter l'incident, note les détails, restitue le contexte et le sens. Enfin, vient la création. Lorsqu'il fait vivre cette épreuve à son héroïne Tania et à ses enfants Serge et Boris. Sous cette forme finale, l'épisode est enrichi par la description des sentiments ordonnée par la tension générale de l'intrigue. Mais c'est parce qu'il exprime aussi les terreurs informes de l'enfance qu'il acquiert dans le livre sa puissance et devient inoubliable. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Henri Troyat est enfin devenu lui-même. Tout est là, devant lui. Ses outils exceptionnels de narrateur, sa maîtrise de la langue et de la construction, ses souvenirs qui font parler à travers lui tout un monde qu'il va méthodiquement explorer. Il n'a que l'embarras du choix pour trouver des sujets à la mesure de son talent. En un mot, il ne lui reste qu'à devenir un monstre. Le résultat est une œuvre immense, plus d'une 100 d'ouvrages qu'il m'est impossible de citer. 22 biographies ont été signées par Henri Troyat, dont 4 seulement consacrées à des personnages non russes. C'est sans doute dans ces biographies que Troyat donne la plus haute mesure de son talent. Il fait œuvre pionnière en la matière. Longtemps, les biographies ont été considérées comme relevant d'un genre mineur. André Mauroy, avec les vies de Byron, de Shelley ou de Disraeli, fut un de ceux qui ont voulu donner à ce type d'ouvrage ses lettres de noblesse. Troya, nous le savons, a certainement été influencé par son exemple. Mais on peut dire sans commettre d'injustice que si élève il y eut, il a dépassé le maître. Avec Stefan Zweig, Henri Troya est de ceux qui ont amené un immense public vers les biographies littéraires. Les siennes sont de véritables œuvres de romanciers. Celles qui concernent les écrivains russes, Pouchkine, Tolstoï et Gogol, sont des plongées dans la vie de ces personnages et, comme pour Dostoïevski, elles témoignent d'une familiarité presque hallucinatoire avec eux. D'ailleurs, Troya vit littéralement en leur compagnie. Son intérieur rue Bonaparte reconstitue l'ambiance d'une maison russe où il travaille sous le regard exigeant d'un portrait de Tolstoï. Les cycles romanesques de Troya sont au nombre de 7, chacun d'eux comportant de multiples volumes. On peut dire à leur propos qu'ils se situent dans la grande tradition française des œuvres monumentales. Jules Romain et les Hommes de bonne volonté, Georges Duhamel et la Chronique des Pasquiers, Roger Martin Duguerre avec les Thibauds ont produit des chefs-d'œuvre du genre. Troya se situe dans leur lignée, mais alors qu'avec la biographie, il contribue plutôt à la naissance d'un genre, avec les grandes sagas familiales, il se situe plutôt à la fin d'une époque. Après lui, les grandes fresques de ce type seront plus rares et souvent moins réussies. Il marque en quelque sorte l'apogée de ses créations monumentales et il les mène à une sorte de perfection. Bien sûr, il a le don naturel du récit. Il appartient à la famille des écrivains qui racontent. Et je vois là un fil de plus qui nous relie. Mais ce talent généreux, il le dompte, le soumet à une discipline rigoureuse. Seule une grande maîtrise de la construction peut faire vivre ces immenses machines romanesques où s'animent des personnages en grand nombre et sur de longues périodes de temps. Qu'il s'agisse des sagas russes, La lumière des justes, par exemple, sur les décembristes, ou françaises, le très célèbre Les semailles et les moissons, ces fresques décrivent des mondes en mutation, le combat d'êtres de chair et de sang dans les turbulences de l'histoire. En cela, ce sont des romans profondément contemporains, quelle que soit l'époque à laquelle ils se situent. Troya s'est toujours défendu d'être un auteur de romans historiques. Pour lui, l'histoire des personnages prime sur l'histoire de l'époque. Il est resté avant tout un romancier et un psychologue. Il n'aurait pas aimé non plus qu'on fasse de lui un auteur de romans politiques. Pourtant, il est frappant de noter que c'est en 1948 qu'a été publié Le Sac et la Cendre, réquisitoire romanesque sans concession contre le régime bolchevique. Dans une période où le communisme exerçait un magistère moral sur l'intelligentsia française, l'entreprise était courageuse et rejoignait ses pionniers de la résistance idéologique que furent Viktor Kravchenko avec « J'ai choisi la liberté » ou plus tard Raymond Aron avec « L'opium des intellectuels ». Non seulement Henri Troya a fait entrer le XXe siècle à l'Académie, mais il y a ouvert une fenêtre sur le monde. Bien d'autres académiciens avant lui avaient porté leur regard vers l'étranger. Il s'en trouvait même un, Vladimir d'Ormesson, pour être né à Saint-Pétersbourg. Mais ils étaient français ou, au plus loin, genevois. Avec Troya, et même s'il est naturalisé, c'est un étranger qui est admis pour la première fois dans cette compagnie. Certes, cet étranger, par son éducation, est depuis toujours très proche de la France. En y arrivant, il ne s'est d'ailleurs pas senti dépaysé. Il parlait déjà notre langue en Russie. Il utilisait des formules un peu désuètes apprises dans les livres. Il ne disait pas comment, mais plaît-il. Mais il n'était pas au fond plus inadapté qu'un petit provincial arrivant en ce temps-là dans la capitale. Troya se situe à la charnière de deux époques. Il est né au temps où, comme l'écrit Marc Fumaroli, l'Europe parlait français. À ce titre, les classes éduquées étaient partout un peu françaises. Cependant, au lendemain de la Grande Guerre, cet universalisme est déjà mis à mal. Les nations se solidifient, leurs frontières se militarisent, les mentalités se crispent. La France est toujours une grande puissance, mais elle est affaiblie, elle doute, elle demande des gages à ceux qui la rejoignent. Il ne suffit plus de parler sa langue. L'émigré devient suspect. Et les Russes ne sont pas toujours bien accueillis. Certains voient en eux des réactionnaires, des parasites dont la grande révolution prolétarienne est venue à bout. D'autres, au contraire, apprécient le raffinement de ces élites déchues. Troya, au lycée Pasteur de Neuilly, découvre que l'exotisme russe peut le rendre intéressant aux yeux de ses camarades et, paradoxalement, faciliter son intégration. Mais c'est à condition de ne prendre de l'étranger que les côtés pittoresques, inoffensifs. Quand pointe la violence russe, la tolérance fait soudain place à la condamnation. Après l'assassinat de Paul Doumer par le russe Gorgoulov, on voit paraître des articles menaçants. L'un d'eux titre « La main d'un étranger met la France en berne ». Lev Tarasov, qui a 21 ans, et s'apprête à devenir français est mortifié. Il voudrait prouver la loyauté des Russes. Il admire l'homme qui a reçu 2 balles dans le bras en protégeant le président de la République et aimerait même être à sa place. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'il y parviendra, car cet homme était l'écrivain Claude Farrère, auquel Henri Thourien succédera 27 ans plus tard à ce même fauteuil. Cette obligation de conformité va prendre une forme radicale, puisqu'elle le contraint même à changer de nom. Nous sommes en 1933, un éditeur accepte son premier roman. Le jeune auteur rêve déjà au beau volume imprimé avec sur la couverture son nom en capitale, Léon Tarassov. Notez qu'il a déjà fait un effort. Il n'est plus Lev, ni Lioulik, comme l'appelait familièrement sa mère, il est Léon Tarassov. L'éditeur ne s'en contente pas. Trop russe. Le risque est que le public croit qu'il s'agit d'une traduction. Il faut chercher un pseudonyme. Tarassov proteste, puis capitule. Il renonce à tout, sauf à l'initiale, et combine des noms en T. Il s'arrête sur Troya, il appelle plomb d'une cabine téléphonique. Sans doute par référence à Tintin, je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'une forte dame attend son tour devant la cabine en piétinant d'impatience. Troya, à la rigueur, dit l'éditeur, mais Léon Troya, ça ne va pas. Il faut un prénom plus sonore. Les premières gouttes de pluie tombent, la dame s'énerve sur un parapluie et fulmine. Je ne sais pas, moi, Henri, Henri Troya, à la rigueur. C'est ainsi que dans une cabine téléphonique, l'année même de sa naturalisation, Lev Tarassov est devenu à jamais Henri Troya. Que risque-t-il encore de moi, s'écrit-il. Depuis l'arrivée de Troya dans cette compagnie, l'ouverture au monde s'est poursuivie. Bien d'autres y sont entrés, qui représentent tous les continents. L'Europe de l'Est et la Russie avec Ionesco et Kessel, l'Afrique avec Senghor, l'Amérique du Nord avec Julien Green, celle du Sud avec Hector Bianchotti, René de Obaldia, l'Asie avec François Cheng, l'espace arabo-musulman avec Assia Djebar. Dans le même mouvement, et bien qu'il ne s'agisse pas de l'un de vos membres, je suis fier, quant à moi, d'avoir fait franchir la porte de cette maison au grand sculpteur sénégalais Ousmane Sow. En 1999, Paris découvrait son œuvre en face d'ici, sur le pont des Arts, où il exposait ses guerriers de bronze monumentaux. Aujourd'hui, c'est en miniature, par le pommeau de cette épée qu'il a sculpté, que son œuvre prend place parmi nous. Mais depuis l'époque de la Révolution russe, la relation que la France entretient avec le monde dans le domaine culturel a bien changé. Dès avant la guerre, notre hégémonie culturelle a été contestée. Après la libération, le mouvement s'accélère. La décolonisation démultiplie et fragmente l'univers francophone. L'effort fait par les États-Unis pour soutenir la création et le rayonnement de la culture américaine porte ses fruits. Désormais, l'attraction universelle se fait fortement dans cette direction. La France s'interroge, tout particulièrement en ce moment, sur son identité. Nombre d'auteurs d'expression française affichent leur ambition d'investir la langue, de la soumettre à leur culture d'origine, entretenant avec la France un rapport de combat qui prolonge la décolonisation, revendiquant la possibilité d'effectuer d'incessants va-et-vient entre les cultures. Rien de tel chez Troya. Il ne croit ni aux allers-retours, ni à la dialectique tendue du métissage. Il ne renie pas son passé, bien au contraire, mais il a choisi, sans ambiguïté, d'être français. Dans son œuvre, il met souvent en scène des personnages qui, comme lui, ont quitté un monde et l'ont emporté avec eux sans retour. Ainsi, par exemple, les destins croisés de la ballerine Ludmila Arbatova et de son professeur, le chorégraphe Marius Petipa. Français d'origine, Petipa a fait sa carrière à Saint-Pétersbourg jusqu'à décider finalement d'y finir ses jours. Ludmila, son élève, était russe et devait terminer sa vie comme professeur de danse à Paris. Henri Troya a pris sa revanche sur le communisme qu'il avait chassé de Russie. Sa vie d'homme aura été plus longue que l'Empire totalitaire. Il lui survivra 15 ans. Jamais, pourtant, il ne retournera en Russie, même après la chute de l'URSS. Je pense à son propos, ce mot de Victor Segalen, l'imaginaire déchoit quand il se confronte au réel. La Russie est pour Troya le continent de l'enfance, le domaine enchanté du Grand Maulne, un monde intérieur qu'aucun présent ne doit profaner. Tout est clair et simple en apparence. Henri Troya a mis sa culture russe au service d'une œuvre française. Son entrée à l'Académie a été pour lui le symbole de sa pleine reconnaissance par la France. Il y jouera le rôle d'un gardien scrupuleux de la langue. Il assurera dans cette compagnie une présence à la fois imposante et rassurante. Il était là, aussi monumental que son œuvre, impavide et le regard fixe, comme les figures sacrées des icônes orthodoxes. Sans doute était-il bien placé, lui qui avait vu basculer un empire, pour comprendre le rôle de l'Académie française. Une civilisation ne peut se réduire à la juxtaposition d'influences extérieures. Pour construire un édifice solide, il faut un ciment. Et dans la composition de ce ciment entre une large part de tradition. L'Académie française est une des institutions fondatrices de la France moderne. Mais ce qui fonde est également ce qui permet de fondre, c'est-à-dire d'assurer la fusion des différents éléments qui nous composent. Et cette fusion est le contraire de la confusion. Elle exige des rites et des règles. C'est une forme d'harmonie. Ceux qui raillent nos broderies, nos plumes et nos tambours seraient bien inspirés de relire les travaux des anthropologues et particulièrement de Claude Lévi-Strauss, que cette compagnie vient hélas de perdre et dont je salue la mémoire. Quiconque approche aujourd'hui des sociétés traditionnelles se désole des ravages que cause la modernité. Il n'y a pas de survie sans tradition. Tuer son passé, c'est se priver d'un avenir propre. Ce qui vaut dans les forêts de l'Amazonie ou dans les îles du Pacifique vaut aussi pour nous. Troya, qui avait vu mourir un monde, connaissait le prix de ces institutions léguées par les siècles. Ainsi est-il devenu une figure officielle de la culture française. Grand croix de la Légion d'honneur, doyen d'élection de l'Académie, gloire littéraire à l'aura internationale. Je ne voudrais pas, pourtant, que nous le quittions là. Si je devais contribuer à laisser de lui cette image, j'aurais l'impression de lui avoir rendu hommage, certainement pas de lui avoir rendu justice. Troya, grand bourgeois français, apaisé en lui-même, satisfait des honneurs qu'il a récoltés, en apparence peut-être. Mais que fait-on alors des angoisses sur son œuvre, dont témoignent ses derniers livres, et qui n'ont rien à voir avec une mort qu'il n'a jamais craint? Que fait-on de cette monstruosité assumée qui, jusqu'à ses derniers jours, le prive de l'existence, l'enchaîne à sa table de travail? Pourquoi cet être s'est-il imposé toute sa vie, je dis bien toute sa vie, cette condition de forçat, d'homme du souterrain, vivant dans les douleurs de la création, sans s'accorder jamais aucun répit? Rien de tout cela ne cadre avec l'image d'un personnage littéralement arrivé. Voilà sans doute le dernier secret, celui qui permet d'approcher au plus près le mystère et le drame d'Henri Troya. Dans son immense production, il n'a laissé qu'un seul indice pour le découvrir. Et comme on peut l'imaginer, c'est un récit, le plus célèbre sans doute. Le héros est un fils d'émigré russe. On reconnaît sans peine son modèle. Au début du roman, il porte son nom, Alyosha. Au début du roman qui porte son nom, Alyosha rentre chez lui tout heureux. Pour la première fois, il rapporte une première place en français. Arrivé à la maison, il trouve ses parents surexcités et qui ne lui prêtent aucune attention. C'est qu'une grande nouvelle vient de leur parvenir. Lénine est mort. La révolution, ils en sont certains, ne va pas lui survivre. Ils vont rentrer. Et le petit garçon cache son inavouable tristesse de devoir quitter la France. Quand le roman se termine, un autre grand événement secoue la famille. Les Français viennent de reconnaître l'URSS. La première ambassade soviétique ouvre à Paris. Les parents d'Alyosha ont compris qu'ils ne repartiront plus. Et le petit garçon, cette fois, cache sa joie de pouvoir rester. Une immense culpabilité l'écrase. Il se sent responsable de la détresse de ses parents, lui qui a tant prié pour rester en France et qui a été entendu. Alors ce même soir, à la table de la salle à manger, Alyosha fait à ses parents un plaisir qu'il leur a longtemps refusé. Il commence à leur lire à haute voix « Guerre et paix » en russe. Voilà Troya. Un enfant qui, en même temps qu'il pouvait devenir français, prenait l'engagement de rester russe. Avec un tel paradoxe, quelqu'un d'autre aurait pu sombrer dans la folie. Lui engloutira sa vie dans la création. Il vivra une situation de total écartèlement. Consacré par la France, il ne cessera de vivre en Russie. Ses personnages sont russes. Son appartement de la rue Bonaparte est une maison russe. Son imaginaire appartient au monde auquel il a fait le vœu de rester fidèle jusqu'à la fin. C'est alors seulement sous les voûtes de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Paris que ces deux pays seront réconciliés par la mort. Il existe une photo de Lev Tarassov que j'aime beaucoup. Il a 12 ans, peut-être 13. Il est vêtu d'un costume en tweed, très bien coupé. Il regarde l'objectif. Déjà dans son regard, on discerne cette absence qui au fil du temps s'approfondira et sera prise pour de la gravité. Il rêve. Toute enfance se termine par un exil. Lui en a connu plusieurs. Et c'est à ce moment-là sans doute qu'il a scellé ce pacte étrange par lequel il restera pour toujours fidèle au pays de son enfance révolue. À le voir ainsi, on dirait qu'il est déjà très grand. Mais un coin de chair nue dans le bas de la photo nous révèle que malgré l'austérité de son costume, il porte encore des culottes courtes. C'est cette image où Troya est déjà présent dans le corps du petit Lev que je voudrais que vous gardiez, Ainsi, cette compagnie à qui il a donné près d'un demi-siècle de son existence lui offrirait-elle en signe de reconnaissance une nouvelle et éternelle jeunesse.
Monsieur, me permettrez-vous d'exprimer avant tout autre propos l'étonnement que j'éprouve à vous retrouver parmi nous, sous cette imposante coupole, solennellement installée dans une immortalité qui dispense, mais ce n'est qu'une apparence, et vous l'avez deviné, un avenir infini autant que paisible. Vous, qui paraissiez incapable de vous arrêter à un destin et à un seul, comme vous l'avez pensé et souvent confié, vous me semblez être là, à la manière d'un nomade, qui, là du monde qu'il a parcouru, aurait trouvé en ce lieu une ultime et confortable demeure. Avouez que j'ai le droit de m'en étonner, alors que 1000 chemins vous furent ouverts et que probablement beaucoup d'autres le seront encore. Incapable de vous arrêter à un destin et un seul, dites-vous, doutant qu'un Dieu, pourtant, dès votre naissance, décidait à votre insu de fixer ce destin, j'évoque Asclépios, qui vous fit affirmer, dès que vous fûtes capable de le penser, que vous étiez né dans la médecine, comme d'autres voient le jour au bord de la mer, au flanc d'une montagne ou dans les champs. D'aussi loin que vous interrogez votre mémoire, la médecine fut pour vous un lieu, une condition, un état, bien avant qu'elle devienne un vrai savoir. En faudrait-il une preuve supplémentaire ? Qu'Asclépios tint la main du chirurgien qui fendit le ventre de votre mère pour vous présenter au monde, et qu'il confia votre éducation par défaut de père, celui qui aurait pu, pour quelque utile raison, contrarier votre vocation, à votre grand-père maternel qui, fils d'employé, avait choisi lui-même de devenir médecin et de fixer son officine à Bourges. Ainsi, les circonstances me fixèrent dans cet endroit étrange, je vous cite, où rien n'était moins attendu qu'un enfant et où seule régnait une passion silencieuse, la médecine. Votre grand-père déjà n'exerçait plus, mais il offrait à votre imagination le roman de sa vie, celle d'un généreux médecin de province, possédant ce mélange d'art, de sacerdoce et de magie, mais y mêlant aussi cet engagement de patriote qui le conduisit à Buchenwald, dont il revint en héros fatigué, mais vivant. Le médecin et l'homme étaient à ce point confondus en lui que mon amour pour mon grand-père s'armait de toute la force avec laquelle la médecine exerçait sur moi son attraction, si bien, ajoutez-vous, que l'affection que vous lui portiez prenait la forme d'un culte lointain, respectueux et muet. Cette affection que, faute de père, il fallait bien que vous la reportâtes sur quelqu'un d'autre, même si vous n'échangeâtes pas, durant votre enfance, plus de 10 phrases avec ce grand-père admirable. La tendresse était ailleurs, auprès d'une grand-mère, certes, mais surtout d'une mère, qui, après son divorce, travaillant à Paris, ne partageait que des effusions éparses, trop rares à votre gré, sauf quand elle fut malade et que votre grand-père l'accueillit pour la soigner. Douterait-on que, désormais, votre destin fût scellé ? Tout le laissait penser. Mais c'était sans compter avec la sève adolescente qui soudain vous fit découvrir que votre ville de province, je vous cite encore, vos grands-parents, la médecine, malgré tout ce que vous leur deviez, et d'abord le respect, n'appartenait pas à la vie. Les magazines que votre mère apporte à chacune de ses visites, la télévision t'éveille en vous des désirs jusque-là insoupçonnés. Vous ambitionnez d'autres destins, vous vous imaginez dans 100 rôles possibles, vous avez 10 ans, votre mère le comprend. Elle décide de vous reprendre avec elle. Vous découvrez Paris, vous oubliez la médecine. Incapable de vous arrêter un seul destin, vous souhaitez devenir architecte, acteur, diplomate, que sais-je encore. C'était sans compter avec Asclépios. Les dieux ne vous lâchent pas ainsi. Alors que votre vocation médicale pâlissait face à d'autres ambitions, il vous envoie l'image de Christian Barnard sous la forme d'un message télévisé. Vous en éprouvez un véritable choc. Ce message vous parvient du Cap. Ce Barnard, dont vous ignoriez tout la veille encore, semble n'avoir existé que pour vous. Il se livre à la caméra, tel qu'il accomplit son exploit, en casaque verte, si hautement symbolique, bavette rabattue, son grand œuvre terminée, va vous annoncer une chose inouïe. Il s'exprime en s'aidant de ses belles mains, celles qui vous fascinent, car elles sont l'instrument d'un miracle. Il est très beau. Il vous raconte avec un sourire charmeur, en même temps qu'au monde entier, comment et pourquoi il a osé ouvrir le thorax d'un homme voué à une mort imminente pour en ôter son cœur et le remplacer par le cœur d'un autre homme en état de mort cérébrale. Geste apparemment insensé. Et il vous explique que celui qui porte ce cœur greffé est vivant. Ce chirurgien fameux avouait qu'il avait osé tenter cela alors que ses maîtres américains hésitaient encore. Bousculant quelque peu l'éthique et la déontologie, il offrait à la médecine du jour le clinquant d'un acte à peine croyable. Un acte qui non seulement vous porte à rêver une médecine toute différente de celle que vous aviez imaginée, non plus sous l'apparence humble et profonde de celle qu'exerçait votre grand-père, tirant sa noblesse de la discrète efficacité de son office, mais sous celle que vous propose désormais ce brillant chirurgien du Cap qui l'allie aux plus grandes audaces de l'humanité. Vous en êtes profondément troublé. Ma vocation était donc double, pensez-vous alors. D'un côté, avec mon grand-père, je rejoignais la médecine dans ses plus anciennes traditions. De l'autre, avec Barnard, j'étais attiré par la médecine pionnière à la pointe de la Révolution. Vous avez 16 ans. Barnard s'impose comme le modèle, celui auquel vous voulez ressembler. Vous n'hésitez plus, vous ne serez ni architecte, ni acteur, j'allais dire ni diplomate, mais chirurgien. Une seule voie de nos jours conduit aux disciplines médicales et chirurgicales. Devenir médecin est une rude épreuve et il n'est pas certain que ceux dont la vocation est la plus forte, et j'entends par vocation le goût d'aider l'autre, la passion généreuse de communiquer, celle de soigner avec compassion, soient les élus d'une sélection acrobatique et ségrégationniste au prétexte qu'elle doit promouvoir les seuls titulaires d'un baccalauréat scientifique. Elle écarte les étudiants en lettres, même les meilleurs, en prétendant qu'ils n'accéderaient pas à la capacité de comprendre la biologie, la physique et la chimie, quand bien même ils comprennent les hommes, ce que les générations anciennes recrutées en toute liberté, autrement que par des questions à choix multiples orientés, étaient capables de faire, tout en offrant aux hôpitaux et aux universités des maîtres qui firent la gloire de notre médecine. Qui pourrait se plaindre de l'heureux mélange de lettrés aux scientifiques, les uns n'excluant pas les autres, celui qui allierait avec avantage l'humanité d'un contact à l'efficacité de la science. Quoi qu'il en soit, vous êtes doué. Vous franchissez aisément les premières étapes, vous aimez l'enseignement clinique, vous supportez mal la hiérarchie médicale traditionnelle que vous assimilez à une sorte de tyrannie. Vous acceptez difficilement chez certains mandarins leur manie, leur parade, leur pouvoir sans partage. On sent poindre en vous une révolte latente. Vous stigmatisez aussi l'apparente spécificité bourgeoise de la médecine qui isole celui qui n'en possède pas totalement les marques. Mais vous êtes soutenu par l'espoir de rejoindre bientôt l'espace que vous avez choisi, celui de la chirurgie et plus précisément celui des émules de Christian Barnard, la salle d'opération de chirurgie cardiaque. Vous en rêvez. À vous, la casaque verte, la bavette collée sur le nez, le lavage des mains, l'enfilage savant des gants, l'habillage par la penseuse qui se moque durement de votre inhabileté, cette mise en condition pour le grand spectacle qui se prépare, quand bien même vous n'y aurez qu'un rôle accessoire, un quatrième ou cinquième rôle que vous connaissez forcément mal, dans lequel vous êtes naturellement maladroit, ce dont vos aînés se gaussent à l'envi. Vous découvrez les coulisses de l'exploit, les images incongrues et terrifiantes que les gestes qui se veulent salvateurs crée sur un être que l'on opère. Vous comprenez mal l'apparente indifférence avec laquelle l'équipe qui entoure le maître ressent ce spectacle dont la découverte vous agresse et vous ne pouvez dégager de votre esprit l'obsessionnelle image de celui qui, sous les champs qui le recouvrent, ne sortira peut-être pas vivant de cette aventure. Vous vous découvrez candide en ce monde initiatique cruel, à l'image de tous ceux qui, comme vous, y frottent leur juvénile et tendre sensibilité au risque de ne point s'en remettre. Vous évaluez à son terrible prix la série d'épreuves qu'il vous faudra surmonter pour dominer vos réactions, durcir votre approche, faire en sorte que vos gestes aient plus de valeur pour votre patient que la compassion qu'il vous inspirera, que vous parveniez à perdre pendant le temps de votre action toute la sensibilité de votre nature et faire que cette compassion n'est qu'un exclusif motif, l'obligation de guérir, en un mot, que vous endossiez cet état d'apparente inhumanité que vous reprochez à vos maîtres. Vous en sortez meurtri dans votre corps et dans votre âme. Vous avez participé à cette grand-messe qu'est toute chirurgie et davantage encore celle que vous venez de vivre, et vous en tirez une profonde désillusion. Vous découvrez au fil des jours que cet univers que vous avez désiré connaître comporte des enjeux cruels, exige un style que vous refusez. Vous comprenez que là n'est pas votre voie, mais que votre vocation médicale n'en reste pas moins intacte et vous prépare, quoi qu'il en soit, à l'internat. C'est votre nature qui finalement va conduire votre choix entre cette double vocation qui vous faisait hésiter entre la médecine classique, celle de votre grand-père, et la médecine aventureuse de Barnard. Vous vous y résignez, mais il en restera des traces sensibles dans vos écrits. 30 ans plus tard, vous nous confierez, entre ces deux modèles incompatibles, je me préparais à beaucoup d'émerveillement, mais à beaucoup de souffrance aussi. Et vous ajouterez qu'il vous faudrait un jour payer le prix fort pour cette schizophrénie. Le concours d'internat inscrivit en votre mémoire un savoir que vous n'oublierez jamais et dont les réformes successives ont progressivement érodé la nature classique, celle qui nous faisait alors titulaires des mêmes manières de penser, recelleurs de recettes éprouvées et à notre manière, souvent, des orateurs assurés. Vous y êtes reçu sans difficulté, on vous sent heureux d'être nanti désormais, d'un rôle hospitalier gratifiant qui vous libère de cette tyrannie médicale qui gâchait vos jeunes études. Pendant 4 ans que dure l'internat, vous avez fait, dites-vous, quotidiennement l'expérience de cette puissance dont il est d'autant plus légitime de jouir qu'on en fait usage pour le bien d'autrui. Vous atteignez enfin le but que vous êtes fixé. Comme votre grand-père, vous dispensez le bien, vous consolez, vous guérissez, et votre âme, si perméable à la souffrance de votre prochain, s'en émeut. Toutefois, pour qui vous observe en cette époque déjà lointaine, un léger doute demeure. En fûtes-vous des plus heureux ? À cette indiscrète question, je me suis efforcé d'y trouver la réponse dans l'une de vos chroniques d'un médecin nomade, rassemblée sous le titre de « Un léopard sur le garrot » que vous avez publié récemment. Vous dirais-je que, sans ces chroniques, j'aurais eu plus de difficultés à saisir bien des traits de votre caractère, de ceux qui m'ont permis de rapporter précisément ce qui précède. « Un léopard sur le garrot » est un fort beau titre. Il est emprunté à Éthiopique, poème de notre illustre ami et confrère Léopold Sédar Senghor. Vers énigmatique, à vrai dire, dans son isolement, aussi ai-je cherché à le replacer dans son contexte. Celui du chant de Chaka, ce poème dramatique dédié aux martyrs bantous de l'Afrique du Sud, que j'ai retrouvé dans l'un des volumes précieux que le cher Léopold Sédar Senghor m'avait offert lors de l'un des beaux moments que nous passâmes ensemble. Je le cite. « Mais ces longues années, cet écartèlement sur la roue des années, ce carcan qui étranglait toute action, cette longue nuit sans sommeil, j'errais, cavale du Zambèze, courant et ruant aux étoiles, rongé d'un mal sans nom comme d'un léopard sur le garrot. » Poème d'amour, à vrai dire, illustrant davantage la suite de votre errance que ces années parisiennes auxquelles l'allusion qu'elles furent longues, qu'elles vous écartelèrent et qu'elles furent un carcan à la liberté que vous souhaitiez, n'en est pas moins pertinente. À le lire, je n'échappe pas à l'impression que vous ne fûtes jamais pleinement heureux des contraintes hospitalières, que vous ne parvînt jamais à dissocier votre devoir médical d'une sensibilité exquise, celle qui vous associe à la souffrance de vos patients, à leur agonie, à leur mort, aux horreurs de la morgue. Quand bien même aurez-vous bientôt choisi la neurologie, cette discipline qui, avant les développements de l'imagerie médicale, liait avec bonheur la finesse du diagnostic à celle de l'esprit, aux sources du savoir. Quand bien même saurez-vous apprécier les subtilités de la psychiatrie qui vous attirera, cette discipline qui fait du langage le fin traducteur de son expression pathologique, qu'il vous semblera soudain que vous enserrez dans la routine et que vous constaterez que la médecine dont vous attendiez tout vous avez cerné d'une insupportable clôture. J'étais témoin, dites-vous, de tous les malheurs humains, mais sans qu'il m'arrivât rien à moi-même ou si peu de choses. Au cœur de la vie des autres, exclu de la mienne, je voyais déjà, par la même prescience que je mettais dans mes diagnostics, le terme de mon parcours, devenir professeur, arpenter d'autres couloirs, prendre ma retraite, mourir léopard sur le garrot. S'évader de cet hôpital qui a toujours suggéré en vous l'étreinte d'une angoisse, d'un malaise, et rendu difficile les années de sa pratique, devient une obsession libératrice. Mais comment ? En lisant, bien sûr, et en nous avouant que tout ce que vous apportez les écrivains, tout ce qu'ils laissaient entrevoir de la vie était à la fois merveilleux, inaccessible, et que votre esprit affamé d'aventure se prenait à rêver que des mousquetaires arrivaient au galop et vous emportaient avec eux. Il en vint un de ces mousquetaires. Il s'appelait Michel, un étudiant qu'une amie vous avait présenté. Ce Michel est votre antithèse, matheux alors que vous êtes poète, errant alors que vous êtes fixé, parasite alors que vous l'abritez, musicien alors que vous ignorez le solfège, fantasque alors que vous êtes trop sérieux, corrupteur un peu, joueur que sais-je encore, mais si brillant qu'il est pour vous la lumière, le portier d'un autre monde, qu'une mort brutale emporte, mais qui soudain vous porte à croire que la médecine non seulement ne remplissait pas un vide, celui de votre ignorance et de votre jeunesse, mais faisait écran à autre chose dont vous étiez plein, votre imagination, vos rêves, votre vraie personnalité. De l'imagination, vous allez en avoir, des rêves aussi. Vous quittez le monde étroit de l'hôpital dès que l'occasion vous en est donnée. D'une rencontre, vous décidez de devenir convoyeur de voitures d'occasion. Vous découvrez l'Afrique, la difficulté de l'exercice qui consiste à imposer à des moteurs épuisés un parcours qui vous conduit jusqu'au Niger. Mais vous appréciez l'aventure géographique qui vous est offerte avec des horizons nouveaux qui vous écrasent. Et ces peuples que vous découvrez dans leur originale nature et dont les criants besoins vous émeuvent. Il vous en restera dès cet instant ce goût de l'ailleurs et ce penchant pour ce qu'il comporte de potentielles actions, une vague prémonition de ce que sera votre rôle à venir. L'Afrique, vous allez d'ailleurs la retrouver bientôt. On ne peut écarter un lien entre ce choix que vous allez faire d'accomplir en coopération le temps de vos obligations militaires et cette première aventure africaine. Vous vous retrouvez à Sousse, en qualité d'interne en neurologie. Un centre tout neuf vous attend, mais c'est à la vétuste maternité que l'on vous affecte. Vous devenez accoucheur malgré vous. Vous êtes horrifié par l'attitude sinon cruelle, voire indifférente, que vos confrères russes ou roumains, conviés par le gouvernement tunisien en ces universités, adoptent face aux conditions effroyables dans lesquelles les parturientes sont traitées. Paradoxalement, ce constat donne un sens à votre présence. Il ressuscite en vous cet intense besoin de secourir, d'assister, de consoler. Aussi allez-vous vous sentir proche de ces femmes musulmanes, muettes en votre langue, qui vous émeuvent par leur résignation, leur simplicité, leur abandon, la confiance qu'elles vous témoignent. Elles étaient, dites-vous, ce que j'étais vraiment venu chercher, un ailleurs, une différence radicale. À Paris, pendant que j'exerçais dans le cadre immuable et rassurant de mon hôpital, il me semblait que tous les êtres humains étaient semblables et que seules leurs maladies étaient distinctes et variées. En Tunisie, je compris au contraire que les maladies sont universelles et que ce sont les humains qui diffèrent. Votre engagement médical sortit profondément modifié de ces expériences, élargi, et de singulier, il devint universel. Désormais, ce désir de communion humaine que votre culture médicale vous portait à dispenser à chacun des patients que vous rencontriez s'est ému des malheurs collectifs de ceux que bousculent, que déciment les conditions naturelles ou politiques fatales qui les oppriment. Serait-il osé d'affirmer qu'à votre retour de Tunisie, vous ne pouvez plus dissocier de votre pratique médicale une arrière-pensée politique, une réflexion qui comporte un taraudant défi ? Celui de transformer des situations que l'on juge inacceptables. Vous en resterez marqué, il n'est guère imprudent d'avancer que l'aventure tunisienne, à certains égards, source de sérieux tracas politiques à votre tour, conditionnera vos engagements futurs. À ce retour, vous retrouvez le chemin de l'hôpital et la pratique de la neurologie avec le sentiment d'assouvir encore une part essentielle de ce à quoi votre nature aspire, mais d'autres sirènes désormais vous en détournent. Elles ne tardent pas à se manifester, et c'est par la télévision, une fois encore, qu'elles vont le faire. Comme pour Barnard, elles vous présentent un personnage au discours duquel vous vous révélez extrêmement sensible. Il est médecin, il parle d'un sujet qui vous intéresse, des malheurs du monde, de guerres cruelles, de solidarité, d'interventions humanitaires. Il se nomme Bernard Kouchner. Vous entendez pour la première fois parler de Médecins sans frontières et d'un exercice de la médecine à la manière de celui dont vous rêvez. Vous décidez de rejoindre ces médecins qui partagent votre idéal et par là même devenir un missionnaire du bien, même si nous comprenons déjà que votre ardent besoin d'agir vous fait négliger les luttes politiques internes dont vous êtes le témoin et qu'à vos yeux, seul compte le secours porté aux faibles, aux oubliés, aux autres. Dès lors, dites-vous, je ne calculais rien et entrais sans réserve dans l'action. D'ailleurs, les années qui suivirent furent les plus fécondes de votre vie, même si, paradoxalement, vous considérez qu'elles furent plutôt des années d'échec et d'errance. On pourrait s'étonner d'une telle contradiction. Mais n'existe-t-il pas fondamentalement dans votre caractère, monsieur, un constant combat entre vos impulsions généreuses et votre raison ? Vous êtes toujours neurologue, mais vous prenez du large. Pour prendre du large, vous reniez toute possibilité d'un destin avantageux dans la sphère hospitalière, au prétexte que les postes n'étaient réservés qu'aux fils de patrons. Une génération nous sépare, et en votre temps, le népotisme médical avait largement vécu, mais il vous est agréable d'imaginer un avenir médical sans espoir, alors que s'offre à vous l'aventure. Et vous avez raison, car ce que vous allez découvrir va transformer votre vie et faire de vous ce que vous êtes, et ce que depuis toujours sans doute vous désiriez être. Vous partez pour le Soudan, et ce fut pour vous une rencontre déterminante, un hasard providentiel. Vous y retrouvez certes les motifs de votre mission, gagner les zones insoumises d'Érythrée, là où règne une guérilla meurtrière, et vous vous singularisez dans l'approche politique d'une situation dangereuse, où seul compte pour vous l'utilité de votre présence, quel qu'en soit le prix. Mais surtout, vous découvrez une terre dont l'impression vous marque à jamais. C'est votre première grande mission en ce pays et le trajet qui vous mène au travers du Soudan jusqu'aux hautes terres d'Éthiopie vous révèle un nouveau monde riche d'autres choses. Ces vastes espaces, ces terres colorées vous séduisent au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer. Vous êtes fasciné par ces pluies torrentielles qui les transforment, celles qui frappent, grondent, claquent sur le sol et sur les toits et qui l'instant d'après murmurent dans les ruisseaux et les caressent avec ces vapeurs bleutées qui montent du sol au retour du soleil, par ces piscines naturelles d'eau chaude dans ce Wundo Gwenet, paradis terrestre pour vos yeux éblouis. Le souvenir de ces bosquets odorants de cire, de ces arbres à encens, des plants de cinnamon, de ces nuits blanches de lune et des doux yeux de ces femmes, vous ne l'oublierez jamais. Vous y puiserez les couleurs et les contours de vos romans. Mais vous n'en êtes pas encore là. Vous agissez, contournez les obstacles que l'on vous oppose. Le marigot politique érythréen est le spectacle des divisions qui lézardent votre organisation humanitaire. Mais vous y retrouvez la vie, la vraie, le prix à payer pour pouvoir être utile dans ces terres habitées à condition d'ouvrir les yeux, d'observer sans dégoût et de comprendre sans condamner. Votre réflexion sur l'aide humanitaire se forge au vécu de cette épreuve. Vous en reparlerez. Malgré vos surprises, vous maintenez à vos retours en France le contact avec le bureau de Médecins sans frontières, mais vous ne tardez pas à vous opposer bientôt à des engagements qui heurtent vos propres convictions et dont vous soupçonnez qu'ils sont manipulés. On ne tolère pas votre indépendance et l'on vous exclut sans autre forme de procès. Vous retrouvez la pratique de la médecine, frustré, mais ressassant avec jubilation les souvenirs merveilleux que vous gardez de vos missions. Aussi reviendrez-vous plus tard à l'action humanitaire, mais différemment. À votre foi primitive, exaltante, il est vrai, succède un engagement que vous voulez plus rationnel, moins vulnérable. Des amis étudiants en sciences politiques vous engagent à vous présenter à l'examen de la rue Saint-Guillaume. Et comme vous êtes doué, vous y êtes reçu. Ceux-là m'ont rapporté que vous y parliez brillamment, très brillamment même, et que vous en tiriez l'avantage de masquer une assiduité très relative. Vous rédigez une thèse de conception hybride, mêlant votre science médicale à votre toute neuve science politique, autour d'un thème purement fictif, celui de la politique sanitaire et sociale de la communauté européenne, dont le principal et heureux impact sera de vous déterminer à exposer bientôt, dans plusieurs écrits, vos opinions sur l'engagement humanitaire. Un engagement qui d'ailleurs vous poursuit. Vous vous retrouvez bientôt directeur médical au sein de l'Association contre la faim. Après un intermède philippin décevant, vous retrouvez soudain l'occasion de l'engagement dont vous rêviez, car il est aussi urgent qu'impérieux. Il ne s'agit rien moins que de sauver une population entière qu'une famine atroce décime. Et cela se passe sur les lieux de votre première mission, dans cette corne de l'Afrique dont vous dites qu'elle est restée pour vous, comme un premier amour, le thème d'une nostalgie récurrente. Les autres missions vous paraîtront mineures comparées à celle-ci, et la famine éthiopienne sera en votre esprit le plus marquant de vos engagements humanitaires. Délivré temporairement de la contrainte hospitalière, vous y impliquez totalement et vous prenez toute disposition pour mener à bien la mission que vous montez à Rama. J'y mis toute mon énergie, toute ma foi, tout mon cœur, dites-vous. Les impressions, les émotions me submergeaient. Et je me sentais bien incapable de les traduire en récits, en mots. C'est beaucoup plus tard, par le détour du roman, qu'il me serait possible de m'en libérer. Ce sera l'objet de vos premiers livres, l'Abyssin. Vous y découvrez aussi la vraie fraternité qui règne en votre groupe et son partage devant le danger. L'hostilité aussi de vos anciens partenaires, qui jettent sur votre attitude pragmatique un discrédit diffamant, mais auquel vous opposez la force de votre action, l'efficacité de celle-ci et l'amour que vous portez à ce peuple dont Azeb, la jeune femme que vous y rencontrez, celle qui deviendra votre épouse, symbolise au travers de la passion qu'elle vous inspire l'enjeu de votre obstination. Vous y démontrez une détermination à laquelle votre expérience médicale n'est pas étrangère, celle qui vous conduit à transposer sur le terrain politique ce qu'elle vous a appris, à savoir la nécessité de vaincre, c'est-à-dire de guérir en médecin. Serait-ce au prix de l'éternel compromis qui oppose au danger de la maladie les risques possibles de l'action thérapeutique qu'on lui oppose ? Un bon sens, à la fois humble et audacieux. De tout cela, enfin, vous en tirez la décision d'écrire le piège humanitaire. En réalité, la thèse que vous souhaitiez rédiger et qui ne sera que le premier de vos écrits politiques, ceux qui, pendant 10 années, se succéderont en une série remarquée. En philosophe, désormais, il vous plaît de démontrer comment à la charité chrétienne s'est substituée une charité laïque prenant l'apparence d'une aventure universelle, abolissant les frontières, faisant de l'action humanitaire une poursuite de la diplomatie par d'autres moyens que la guerre, là où torture, répression, génocide sont instrumentalisés par des régimes féroces. Philosophe, moins cependant que notre ami André Glucksmann, qui avec Thierry Volton vous ravit la vedette avec « Silence on tue », évoquant les dérives humanitaires en cette même Éthiopie, publiée au même moment, et qui vous fait douter que l'on puisse encore écouter de nos jours sur un même objet les médecins que nous sommes lorsqu'ils s'expriment hors de la compétence qu'on leur accorde. Mais vous aurez votre revanche. Édité en livre de poche, sous son vrai titre et non pas sous celui de Le Piège, comme votre éditeur l'avait imposé, il vous vaudra la reconnaissance de certains de vos amis et surtout des universitaires, et votre retour en grâce auprès de Claude Malhuret, devenu dans l'intervalle secrétaire d'État aux droits de l'homme, dans le gouvernement dirigé alors par Jacques Chirac. Vous entrez en politique en devenant membre de son cabinet. Vous vivez auprès de lui 2 années passionnantes, qui vont se terminer brutalement. Quand elle s'achève, de même que votre provisoire emploi, vous ne retrouvez pas l'hôpital, mais vous acceptez un poste de conseiller culturel au Brésil. Notre confrère Pierre-Jean Rémy ne fut pas étranger à ce que vous rejoigniez Recife, alors même qu'il pensait que ce consulat n'était guère à la hauteur de vos talents. Mais n'est-ce pas encore l'aventure qui préside à votre choix ? Quand vous y débarquez dans l'air humide et chaud de la nuit, il y flottait, je vous cite, des odeurs de kérosène et de canne à sucre. Mais ce fut cependant, après l'Éthiopie, le deuxième grand choc culturel de votre vie. Est-ce parce que, pour la première fois, vous y goûtez une oisiveté totale. Sur la plage, votre véritable demeure, vous lisez, vous rêvez, vous oubliez même la médecine. Vous êtes un homme heureux. Vous vous initiez à la pratique de l'ordinateur et à l'écriture, ce qui vous vaut d'imaginer un premier roman qu'on vous refusera. Mais le regard de peintre qui est en vous enregistre des images qui seront plus tard, comme toutes celles que votre mémoire aura retenues, lors de vos futurs récits. Et bien sûr, de La Salamandre, qui plaque si pathétiquement sur ce décor de rêve la cruauté que recèlent la misère et la perversité des hommes. Roman qui restera 15 ans dans vos cartons. Le médecin, le politique, le philosophe laissent ainsi peu à peu la place au romancier. Mais vous vous lassez de ce paradis impur, vous rentrez en France, vous renouez avec la médecine timidement, en remplaçant une neurologue de province sans enthousiasme. Cette médecine-là ne vous plaît pas. Aussi allez-vous vous consoler de n'avoir point d'emploi en écrivant un essai inspiré par votre récente expérience. Ce sera l'Empire et les nouveaux barbares, qui, riche d'allusions historiques antiques, tente d'analyser alors les conditions qui opposent l'opulent Nord au misérable Sud, alors que n'existent plus guère les tensions Est-Ouest qui en marquèrent jusqu'à la chute du communisme et les moteurs et les tendances. Réédité en 2001, votre essai prend actuellement une valeur prophétique. Vous y stigmatisez la différence fondamentale qui sépare les chemins que prennent le Nord, qui procède à son unification, même besogneuse, mais substituant à la pluralité passée l'unicité présente, et le Sud se divisant en de multiples entités que séparent tradition tribale, religion, révolution, se refusant à tout pouvoir central. Une économie de prédation y domine, qui d'individuel se fait collective. Citant Tacite parlant des Germains, ces peuples qui ne veulent pas acquérir par la sueur ce qu'ils peuvent obtenir par les armes, vous regrettez profondément cette dérive si généralement rencontrée dans les pays émergents. Guérilla, guerre civile, insurrection, vous le soulignez, activité désormais ouverte à tous, constituent autant d'énigmes difficilement accessibles à nos systèmes de pensée. Ce livre eut, quoi que vous en disiez, un franc succès. Il fut commenté, traduit, vous valut de nombreuses auditions et vous ramena vers l'action et s'en étonnerait-on vers Médecins sans frontières. Vous en serez bientôt le vice-président, apprécierez sans doute quelques-unes des missions qui vous y furent confiées, mais vous ne refusâtes pas l'occasion qui vous fut offerte de quitter définitivement ce que vous qualifierez alors de trouble marécage, au risque d'en faire crier les grenouilles qui est pataugé, je vous cite, car vous rejoignez le ministère de la Défense, dont a priori on peut penser qu'il n'offrait pas à vos amis l'image d'un concurrent valable dans le domaine de l'action humanitaire. Et pourtant, c'est à Sarajevo qu'il vous conduit, en pleine tourmente, et que vous avez retrouvé le climat que vous aimez, celui de l'action, médicale tout d'abord, politique aussi, évacuant ici telle fillette, libérant là tels otages, naviguant entre tous ces protagonistes guerriers et démontrant à la fois courage et détermination, un vrai talent de diplomate, celui que l'on va tester bientôt sur un autre terrain combien plus dangereux, celui du Rwanda, où vous parvenez à nouer des contacts que l'on croyait impossibles entre ceux qui se combattaient. Vous viviez une vie dangereuse et exaltante, mais le danger ne vint pas là d'où vous le pensiez, non pas d'un tireur isolé, mais de la décision de dissoudre l'Assemblée nationale qui mit fin à vos fonctions. Fin somme toute prévisible d'une façon ou d'une autre, et contre les conséquences de laquelle vous vous étiez prémuni en passant le concours de médecin des hôpitaux. Un poste vous est promis à Saint-Antoine, mais il faut l'attendre 6 mois. Pendant cela, vous rejoignez Xavier Emmanueli, son SAMU social, et l'âpre et subtile approche des 100 dominiles fixes qu'il veut sauver et que vous testez à ses côtés une fois par semaine. Mais vous goûtez aussi le bonheur d'être libre de tout emploi et de disposer d'un temps que vous allez consacrer à l'écriture. Cela fait des années que vous en rêvez. Certes, vos écrits politiques vous ont démontré que vous en étiez capable et que vous aviez su exprimer plus ou moins directement le sel de vos aventures, mais vous percevez comme une pesante rétention celle des images que vous avez enfouies en vous, celle des climats que vous avez découverts, des peuples que vous avez rencontrés, des femmes que vous avez croisées et que votre imagination s'impatiente de ne pas avoir encore fait revivre à votre manière, à votre gré. C'est romancier que vous voulez être. Vous écrivez votre premier roman, du moins le premier que vous oserez offrir à vos lecteurs. Vous découvrez que laisser courir votre imagination vous est secourable. J'étais dans un complet désarroi, avouez-vous. Alors l'imaginaire est venu à mon secours. Toutefois, cette imagination va replacer vos pas dans votre propre histoire. Car si les causes perdues ne seront publiées que plus tard, c'est bien ce roman qui fut votre premier essai. Un essai d'inspiration autobiographique, car ce journal d'Hilarion Gringorian tenu à Asmara, en cette Éthiopie qui vous est chère, nous livre l'aventure d'un jeune Français, Grégoire, âgé de 27 ans, qui, sans vous ressembler physiquement, nous rapporte ce que vous y avez vécu. Vous l'écrivez vite, car au fil des pages que vous remplissez de votre écriture, vous désirez davantage, comme si transposer votre expérience humanitaire de cette façon vous avait permis d'en exorciser la déception, même s'il en restait la grandeur, sans toutefois vous satisfaire tout à fait. Combien seriez-vous plus libre si vous abordiez vraiment la fiction ? Et pourquoi pas ? Celle que vous inspire, cette anecdote par laquelle vous terminez votre livre, celle qui compte l'aventure d'un apothicaire que le roi Louis XIV envoya auprès d'une aiguse d'Abyssinie, une aventure qui vous transporte et vous fait écrire l'Abyssin en 5 semaines seulement, à la manière d'un traitement à usage personnel, ce livre n'ayant d'autres prétentions que de m'aider à vivre, ajoutez-vous. Autodiagnostic du psychiatre que vous êtes ou précaution d'auteur peu sûr de lui-même. Jean-Baptiste Poncet, cet apothicaire français qui se disait médecin, ce qui était une imposture fréquente au siècle du grand roi, vivant au Caire, sera le héros de votre histoire. Une catharsis plaisante de presque 600 pages pour que se restituent devant nous les couleurs, les odeurs, les violences, les séductions des paysages que Jean-Baptiste, j'allais dire Jean-Christophe, traverse pour se rendre en Abyssinie, l'adversité de ceux qui s'opposent à sa mission, mais aussi, et surtout, l'amour qui en constitue la trame profonde. Une aventure riche en rebondissements, de celles qui pourraient vous classer, selon notre confrère Jean Dutour, les appréciant, parmi, je le cite, « les romanciers à tiroir bénéficient d'une grâce et le sachent plus qu'un autre, c'est que leurs tiroirs mystérieusement contiennent des aventures » qui, tout en ayant l'air de couper artificiellement le récit principal, l'enrichissent, lui donnent des éclairages et des harmoniques. Mais vous classez aussi parmi tous ceux que fascinèrent les soleils d'ailleurs, les terres où ils allument des aurores somptueuses, réveillent des senteurs inconnues et auxquelles ils aiment lier l'aventure des hommes et les caprices de l'histoire. Ce que je me permettrai d'évoquer avec cette histoire d'Alix et de Jean-Baptiste, mais qui concernera aussi vos romans futurs. L'Abyssin va recevoir du public un accueil si bienveillant qu'il vous vaudra le prix Goncourt du premier roman et le prix Méditerranée en cette année 1997. Ces couronnes vont encore une fois bouleverser votre vie. Vous exercez à nouveau la médecine, mais l'écrivain qu'honore désormais la presse, la liberté que son succès lui laisse entrevoir, vous parurent être paradoxalement un désaveu à votre vie présente, celle du médecin enfermé entre les murs de l'hôpital, avec laquelle vous aviez naguère déjà rompu et à laquelle vous allez de nouveau rompre. Vous ne voulez plus être un médecin qui écrit, mais un écrivain, celui qui se souvient du jubilatoire enfermement en lequel il trouva l'occasion bien heureuse de son évasion. Vous quittez ce poste hospitalier que vous aviez désiré, la sécurité qui lui est liée, et faites le pari d'écrire d'autres livres. Vous liez votre liberté d'écrire à votre liberté d'être. L'Abyssin aura une suite moins heureuse, mais les doutes qui auraient pu ébranler vos convictions s'évanouiront rapidement lorsque les causes perdues seront couronnées par le prix Interallié et votre Rouge Brésil par le Goncourt en 2001. Un large public s'enthousiasme pour les aventures du chevalier de Villegagnon, de Juste et de Colombe. Vous y gagnez la consécration du style que vous avez choisi, la maîtrise du récit, et cette agilité à transcrire l'histoire que vos lecteurs apprécient et qui vous font dire avec déférence qu'ils vous rapprochent d'Alexandre Dumas. Ce style que vous retrouverez aussi dans votre conte futuriste Globalia ou votre écologique Parfum d'Adam, différent cependant de celui qui emprunte une forme plus personnelle de votre talent dans La Salamandre ou Un léopard sur le garrot dans lequel le temps présent reprend ses droits. L'écrivain consacré que vous êtes désormais vous fait dire que jamais vous n'avez été aussi peu médecin qu'aujourd'hui, et pourtant que vous n'avez jamais été plus proche de la vocation qui vous avait choisi ce métier. Dans votre dernier livre autobiographique que j'ai cité, vous discutez longuement de ce qui vous lie à votre formation médicale et de ce qui vous en sépare dans votre activité littéraire. Vous prétendez que votre activité médicale s'est figée en vous de telle sorte qu'elle vous est apparue plutôt comme un obstacle à votre désir de fiction. Et cependant, vous revendiquez l'action, celle dont le temps réel, dites-vous, embrume votre vue, mais alimente votre pensée d'après, celle qui vous inspire. Mais ce désir d'action qui domine votre vie n'est-il pas d'essence médicale, quelle que fût l'expression que vous lui donnâtes ? Permettez-moi de ne pas vous trouver si dissemblable de tous ces médecins qui vous précèdent dans notre compagnie. Nombre d'entre eux, certes, restèrent intimement liés à leur discipline, mais tous conférèrent au regard si singulier qu'ils portèrent sur les hommes et sur la véritable condition de ceux-ci, la vision qu'ils eurent du monde et qu'ils nous livrèrent dans leurs écrits. Une vision que Curot Lachambe, le premier d'entre nous, traduisit si bellement et en français, quoique médecin latinisant de son siècle, dans les 5 volumes qui lui permirent de définir les caractères des passions, lesquelles gardaient sans doute les parfums du salon de Madeleine de Scudéry et des précieuses qu'il y rencontrait. Une vision neuve et peut-être dérangeante qui disparut avec lui et dont il fallut près d'un siècle et demi pour qu'elle réapparût en notre compagnie avec Félix Vic d'Azyr, encyclopédiste autant que brillant anatomiste et visionnaire en notre discipline. Jean-Georges Cabénis lui-même, si proche ami de Madame d'Helvétius, développait encore en ce 19e siècle naissant de larges préoccupations médicales en ses démarches politiques ou philosophiques. Ce qui ne concerne guère, je vous l'accorde, Émile Littré, qui, quoique interne des hôpitaux, ne passa jamais sa thèse de médecine et préféra enseigner le grec et le latin et s'enfouir, avec la précision que l'on sait, pendant près de 20 années dans la définition des mots. Que dire aussi de Clémenceau, qui ne fut médecin que le temps de sa jeunesse et qui lui préféra le brillant rôle politique qu'on lui connaît. C'est le XXe siècle qui ouvrit largement notre compagnie aux médecins. On y relève pas moins de 7 élections. L'accueil en 1935 par notre compagnie de l'auteur de la chronique des Pasquier, Georges Duhamel, comporte encore une large connotation littéraire. 1935, c'est cependant l'époque où la médecine découvre son premier grand remède, les sulfamides, ce qui fit dire à notre maître Jean Bernard qu'ils offraient aux médecins la première occasion d'être enfin efficaces. Avant, ajoutait-il, ils n'avaient que les mots. Désormais, ils avaient le pouvoir réel de sauver des vies. Ils devenaient des atouts essentiels dans nos sociétés, ce que sans doute notre compagnie remarqua. Jean Bernard, tout comme Louis Pasteur, Valérie Radeau, porte-parole d'une médecine désormais triomphante, rejoignirent celle-ci parce qu'il paraît leurs écrits tout en restant profondément imprégnés de leur savoir médical, de propos humanistes ou poétiques. Jean Delay, véritable révélateur de la part chimique de nos humeurs, subtil confesseur des armes, sachant calmer les orages aussi bien qu'en exprimer les souffrances, sut assouvir avec bonheur le besoin d'écrire auquel il aspirait depuis l'enfance. Jean Burger, qui à la manière de Barnhart sut offrir un rein neuf à celui qui allait mourir, fit de Clio une assidue compagne. Et pour clore la liste de ceux qui ne sont plus, Henri Mondor, le premier chirurgien que notre compagnie, depuis sa création, daigna enfin accueillir, avait su lui prouver qu'il lisait Mallarmé comme personne. Convenez qu'avec eux et François Jacob, le plus éminent d'entre nous, nanti du même bagage et doté d'une vision qui nous est propre, vous partagez le même besoin d'écrire. Mais je vous accorde une singularité qui vous inscrit parmi les plus romanesques d'entre nous et vous fait écrivain, fussiez-vous médecin, plutôt que médecin ayant le goût d'écrire. En cela, vous vous rapprochez de celui dont vous venez de faire l'éloge, celui qui fut notre doyen d'élection, Henri Troyat, qui fut présent plus de 50 ans dans le fauteuil que vous occupez désormais et dont l'œuvre immense, puissée dans ses origines, sut mêler avec bonheur les images rémanentes de son enfance russe à sa prodigieuse imagination. Comme vous, il connut la gloire du Goncourt. Comme vous, il sut concilier, et avec quelle ampleur, le réel et la fiction. En son fauteuil, je suis sûr, monsieur, que vous méditerez le jeu de ces similitudes. Avant de clore ce long discours, permettez-moi enfin de vous poser une question. Homme d'action, vous avez voué à la fiction un rôle majeur en votre vie. Au temps de l'action, Vous nous avez dit préférer la fiction tout en ne vous écartant guère longtemps, il faut bien l'avouer, de l'action. Dans l'un de vos romans, j'ai relevé cette description du métier de diplomate. Je vous cite. « Il ne remplissait jamais si bien son rôle que dans ces moments où, n'ayant rien à faire, il pouvait s'y consacrer tout entier. Il rendait des visites à un nombre de personnages auxquels il n'avait rien à dire et dont il ne consentait à rien entendre. Ce rien, il parvenait alors à l'élever à la dignité d'une grâce d'État, nimbé comme il se doit de secrets et parfumé de mépris à l'endroit de celui qui aurait eu l'audace de lui demander des comptes sur l'emploi de son temps. Votre imagination, en l'occurrence fort narquoise, prête à M. de Maillé, consul au Caire, dans votre roman « L'Abyssin », un rôle dont j'aimerais savoir s'il s'accommode de la réalité que vous vivez à Dakar ou s'il est de pure fiction. Ou faut-il que nous-mêmes nous portions à imaginer qu'elle en diffère sûrement et avec un grand avantage ? C'est ce que vous nous direz bientôt, car, monsieur, je vous souhaite bienvenue en notre compagnie. »
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance solennelle d'installation de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française sous la coupole de l'Institut de France le 12 novembre 2009.